Bonjour à tous, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que, hélas, c'est la rentrée. Adieu l'été, son insouciance, adieu les piscines, le soleil et les crocs. Mais surtout, qui dit rentrée scolaire. Et même si ça fait maintenant plus de 15 ans que j'ai arrêté mes études, je ne peux pas m'empêcher de ressentir un malaise en tombant sur des affaires de rentrée des classes dans un supermarché. Alors s'il vous plaît, messieurs Leclerc, Carrefour et Auchan et autres babous, s'il vous plaît, arrêtez de mettre des affaires dès la mi-juillet. Sérieusement, ça gâche les vacances de voir quelque chose comme ça. La bonne nouvelle, par contre, c'est que nous sommes de retour pour une nouvelle saison de votre podcast sur les critiques de l'actualité du cinéma vues par les scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 12. Aujourd'hui, un programme qui sent encore les UV, puisque nous parlerons des trois films de l'été, à savoir Mary Shelley, Burning et Black Clansman. C'est Guillaume au micro, et pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe américaine, à savoir Camille, Sarah, Cédric, Marie, Marine et Claire. Je dis américaine, puisque Camille, Sarah et ceux qui ne sont pas là, Armand et Rumix, nous quittent. Ils quittent le podcast, et quand je dis ils quittent le podcast, ils font pas ça à moitié, puisqu'ils quittent carrément la France. Direction Los Angeles pour intégrer UCLA, une école de scénario. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas trop tôt, il serait temps que vous appreniez à écrire. On va passer au courrier des lecteurs. Un seul message de tout l'été d'un certain Guillaume de Paris qui aimerait revenir sur le dernier podcast. Il était un peu déçu de pas m'entendre à la présentation. Je te comprends, Guillaume. Mais il voulait quand même féliciter Fiona pour son intérim rondement mené. Au niveau des films, il signale que vous avez oublié de parler de la géographie parisienne catastrophique dans le dernier Mission Impossible. Il habite juste à côté de la rue où le camion se coince entre deux murs et c'est un scandale. Cette rue part en angle à 90 degrés. Hollywood a encore menti. Sur My Lady, il aimerait dire que la première partie est très réussie, mais qu'ensuite le film s'embourbe dans un mauvais mélo. Si le gamin a envie de mourir, mais qu'il crève une bonne fois pour toutes, c'est un film qui se croit beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est réellement. Il conclut en nous disant qu'il y a beaucoup de trucs quand même dans le dernier podcast, et il nous souhaite une bonne saison. Écoute, merci Guillaume pour ce courrier qui nous va droit au cœur. Et si vous voulez faire comme lui, n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook de C'est quoi le pitch. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. On commence par Mary Shelley, écrit par Emma Johnson, et c'est Marie qui nous le pitch.
Alors, Mary Shelley, nous sommes à Londres au début du 19e siècle. Marie a 16 ans et elle passe son temps entre la librairie de son père et la tombe de sa mère où elle écrit des histoires de fantômes. Un jour, son chemin croise celui de Percy Shelley, un poète idéaliste et passionné. Elle tombe amoureuse de lui, il est déjà marié, mais ils décident de s'enfuir ensemble. Et ils mènent une existence libre et progressiste consacrée à la littérature. Mais cette liberté a un prix pour Marie. Elle doit affronter le scandale, la pauvreté, les désillusions sur sa vie de couple et surtout le deuil de sa fille. Ces deux années d'épreuves successives, puisque tout ça se passe entre 16 et ses 18 ans, la pousse à écrire, suite à un défi, l'histoire d'une créature injustement et cruellement abandonnée par le scientifique qui l'a créée, Frankenstein. Derrière ce roman qui révolutionnera la littérature et marquera la culture populaire à tout jamais, c'est son parcours de femme qu'elle nous raconte.
Parfait Marie, alors je me retourne vers mes deux féministes de service, parce que, disons-le, c'est un film clairement où les femmes ont le beau rôle. Camille ?
J'ai plutôt aimé Mary Shelley. J'ai trouvé que c'était intéressant entre le désir de liberté que Marie a et en fait le fait qu'elle n'ose pas se saisir de cette liberté-là et qu'il y a un fossé à franchir. Et qu'au début, elle attendait un peu de son poète qui la sauve en fait. Et au final, il ne le fait pas du tout, clairement pas. Mais elle a appris à se sauver elle-même toute seule comme une grande à la fin. Et ça, j'ai trouvé ça assez beau comme trajectoire de personnage dans ce film.
Oui, elle dit à la fin qu'elle ne regrette pas ses choix, parce que sa vie est émaillée de drames, et malgré tout, elle ne regrette pas, elle referait la même chose.
Enfin, émaillée de drames, elle vit dans le luxe, elle est invitée par des barons.
Elle ne vit pas dans le luxe, elle est dans la misère, et sa fille meurt à 6 mois.
Elle est renée par sa famille,
sur les 2 ans. Alors, son mari la trompe, c'est pas sûr, ça. Si c'est on s'en doute très probablement avec sa copine. Mais elle vit. Bon, d'accord, elle a une mauvaise période dans une espèce de cloaque où elle vit. Mais la plupart du temps, son mec, bon, on sait pas trop où il trouve son pognon, mais clairement, il vit à crédit. Il arrive quand même à l'entretenir. Sur ses 2 ans, je parle. Hein. Il arrive quand même à l'entretenir. Et après, pendant un long moment, elle vit chez Byron, je sais plus dans quel pays c'est, en Autriche ou je sais plus quoi.
C'est à Genève.
C'est à Genève, pardon. Oui, Camille.
Mais déjà, à l'époque, c'était les hommes qui entretenaient les femmes. Pour la plupart, c'était compliqué pour le travailler. Et puis, en plus, tu viens de dire sa copine, mais je crois que c'est sa demi-sœur, non ?
Oui, c'est la fille de sa belle-mère.
J'ai pas bien compris qui c'était, en fait.
En fait, son père s'est remarié avec une femme qui avait déjà une fille, et donc c'est elle, sa sœur.
Ok. Mmh. Sarah ?
Oui, moi j'ai pas mal aimé. J'ai trouvé que c'était assez réussi. C'est l'histoire d'amour entre Percy et Marie. Parce que c'est très inattendu. C'est-à-dire qu'on s'attend pas. Il se rend compte quand elle est en Écosse. On s'attend pas à ce qu'il vienne chez elle prendre un poste de tuteur pour se rapprocher d'elle. Ensuite, on s'attend pas du tout à ce qu'il soit en fait marié avec un enfant parce qu'il a 21 ans et qu'il ait complètement abandonné sa première famille. Puis on s'attend pas non plus à ce qu'elle rompe avec son père pour le suivre. Donc je trouve que ça rythme le film, que c'est très romantique et que si vous aimez les drames romantiques d'époque, en fait c'est très réussi, on a une vraie ambiance d'époque, on est complètement plongé dans cette atmosphère, donc sur cet aspect ça m'a beaucoup plu.
Quand tu t'es pas dit que c'était bizarre que justement il la rencontre en Écosse et qu'il vient, je crois que ça se passe à Londres, il vient jusqu'à Londres et sa femme et son gosse, c'est son premier gosse, est déjà là.
Non, ça je pense que c'est un londonien et il était en Écosse par hasard et c'est comme ça qu'ils se rencontrent.
Ah, du coup il a pas fait un énorme effort pour venir la rejoindre. Vu qu'il vivait déjà là.
Bah, il propose quand même d'éponger toutes les dettes de son père juste pour pouvoir passer du temps avec elle. On sent quand même l'homme romantique qui a vraiment. Il est tombé amoureux d'elle et il fait tout pour la conquérir.
On semble romantique. Première chose qu'elle apprend sur lui, il a abandonné sa femme et son gosse. Oui. Il y a quand même une alarme au-dessus de ce mec qui dit attention, c'est un connard.
C'est un grand poète. Elle est déjà amoureuse de lui au moment où elle découvre ça.
Et puis il défend son idée du mariage. Il dit le mariage, c'est un carcan dans lequel on veut nous mettre. D'ailleurs, le père de Marie Shelley, il est plutôt d'accord avec ça. Et elle, faut pas oublier que c'est une fille de féministe et qui elle a toujours grandi dans cette ambiance de femme qui doit vivre sa vie et pas être soumise aux hommes.
D'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'elle dit non quand son mec lui dit « Mais tu t'as le droit de coucher avec mes amis, hein ?»
On est ouvert. Parce qu'elle est amoureuse de lui, voilà. Et qu'elle est exclusive, alors que lui, il considère que l'amour, ça doit être la liberté totale, sexuelle, sentimentale, et ils n'ont pas du tout la même vision de l'amour, et c'est ça qui...
Ils s'en rendent compte un peu trop tard.
Qui lui a des problèmes dans leur couple, quoi.
Ok, Camille ?
Justement, pour rebondir sur le besoin de liberté, je trouve qu'on ne comprend pas assez le besoin de liberté de Marie, parce que finalement, voilà, pas trop de problèmes au début. Elle s'entend bien avec son père. Elle a une relation un peu compliquée avec sa belle-mère, mais franchement, c'est pas... Non, arrête, c'est pas non plus monstrueux. Du coup, on ne comprend pas son besoin irrépressible de liberté et d'abandonner tout et de se retrouver dans la misère. Un peu... Moi, je trouve que les pions qui sont posés au début sont un peu compliqués à comprendre.
Mais en fait, on explique aussi que sa mère, c'est exactement ce qu'a fait sa mère. Elle est partie pour vivre avec un homme marié et Marie, elle a perdu sa maman à la naissance. Et elle vit... D'ailleurs, elle va toujours sur la tombe de sa mère. Elle parle souvent du fantôme de sa mère. Enfin, on sent que ce premier abandon l'a énormément marquée et qu'elle s'identifie beaucoup à cette figure maternelle. Et j'ai eu le sentiment qu'elle répétait le schéma, finalement, de sa mère pour... marcher dans ses pas, finalement.
Ouais, ce qui est hyper réussi dans le film, c'est tout ce qui est autour de l'écriture, c'est-à-dire que c'est des écrivains. Il y a deux poètes, Lord Byron, qui est l'ami de Percy Shelley, chez qui ils vont loger. Il y a Shelley lui-même et il y a Marie. Et je trouve que c'est très très bien bâti, toute l'histoire autour de l'isolement, de l'abandon de Marie elle-même, jusqu'au moment où elle bâtit son chef-d'œuvre, du coup, Frankenstein. En fait, on y croit. C'est-à-dire qu'au moment où elle publie le bouquin, on se dit, en fait, elle a vécu tout ça. On l'a vu le vivre et du coup, on croit totalement à ce qu'elle a écrit ce roman. Après, je trouve que là, c'est un tout petit peu dommage, c'est que j'aurais voulu qu'ils parlent encore plus de l'écriture, qu'on les voit plus écrire. Il y a un moment où il y a une scène où ils sont tous dans ce château complètement décadent et qu'il pleut, ils sont là, on s'ennuie tellement, et on est là, oui, nous aussi on s'ennuie un petit peu, faites quelque chose. Et ils disent, et si on faisait un concours de nouvelles, chacun écrit une nouvelle et on attribue le prix à la meilleure nouvelle. Et j'étais, trop bien, mais on va voir Marie Shelley écrire quelque chose et puis Lord Byron et tout. Et en fait, non. Ils ne le font pas. Du coup, il y en a juste un qui dit, moi je vais écrire quelque chose et ça s'appellera Le Vampire, tout le monde se fout de sa gueule. Et on apprend à la fin du film que en fait Lord Byron lui a piqué sa nouvelle, mais on ne l'a jamais entendu, on n'a pas un mot. Et je trouve ça dommage parce que tout ce qu'il y a autour de l'écriture, tous les poèmes cités par Shelley, ça fonctionne très très bien, ça fait des dialogues magnifiques. Donc on aurait voulu encore plus voir Marie Shelley à l'œuvre.
Je suis d'accord avec toi. Je trouve que le film prend son envol à partir du moment où elle écrit Frankenstein. Comme c'est qu'elle écrit Frankenstein, c'est quoi ? C'est un quart d'heure de la fin. Et je trouve que le film est beaucoup. Mais le film est beaucoup 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 trop long. Pour arriver jusque ça. C'est pas l'histoire de Marie Shelley, c'est l'histoire de comment Marie Shelley,
c'est la jeunesse,
ce qu'elle a vécu pour c'est pas l'histoire de Marie Shelley, parce que j'aurais aimé voir comment le succès, comment elle a pu gérer son succès après. C'est l'histoire de qu'est-ce qu'elle a vécu pour arriver jusqu'à Frankenstein. Camille.
Et d'ailleurs, au moment où elle veut publier son bouquin, elle se retrouve complètement coincée parce que c'est une femme, parce que c'est la femme ou la compagne d'un poète connu, et c'est vraiment là où elle se retrouve vraiment coincée et qu'on la voit que en tant que femme, elle est désavantagée Alors qu'on le et là on comprend qu'elle ait besoin de se libérer et d'être elle-même, alors qu'on le voit beaucoup moins avant.
Il y a oui, deux Sarah. Choses. Enfin, je trouve que les relations entre les personnages auraient pu être un tout petit peu plus fouillées et poussées. Par exemple, la relation père-fille qui est quand même assez centrale. En fait, elle disparaît complètement dès le début. On sent qu'ils sont très proches. Et en fait, à partir du moment où Percy vient s'installer sous prétexte d'être de demander à être le protégé de son père, en fait, on voit aucune scène entre deux. Donc, on comprend pas bien ce qu'il fait dans la maison. Nous, on sait très bien qu'il est venu pour la jeune fille, mais en gros, on se dit comment le père a pu gober ça. Et du coup, il a aucun dilemme quand sa fille part. Il lui dit bah non, on part pas avec avec ce type, alors qu'en fait il aurait pu s'attacher à ce mec-là, comme dans un très bon film qui s'appelle Call Me by Your Name, où il y a vraiment une scène de tuteur avec son élève et on comprend la connexion intellectuelle qu'ils ont tous les deux. Et enfin, pareil,
dans Call Me by Your Name, il le laisse faire aussi.
Oui. Lui, il l'encourage, ouais, il est beaucoup plus positif. Oui. Mais dans la relation entre Marie et sa sœur, qui est très intéressante, qui structure tout le film, c'est sa demi-sœur. Et au début, elles sont hyper fusionnelles, c'est assez mignon, elles sont complices. Il y a Marie qui raconte des histoires de fantômes et l'autre qui l'a fait même revenir d'Écosse en prétendant une maladie grave pour que sa sœur revienne la divertir.
Ah ouais.
Et à partir du moment où elles partent ensemble, parce que Marie refuse d'abandonner sa sœur, avec Shelley, qui est donc quand même le grand amour de Marie, bah en fait, on comprend plus ou moins, mais c'est jamais dit que sa sœur a une relation sexuelle avec son beau-frère, quoi.
Oui, c'est.
Et là, Marie ne dit jamais rien, ne confronte jamais sa sœur, alors que c'est quand même glauque comme situation, oui. Et qu'elle subit ça tout le film. Et elle, qui est un personnage très fort et très indépendant, jamais elle va confronter sur sa sœur sur le fait qu'elle couche avec son propre mari. Et c'est très dommage parce qu'on aurait pu avoir une relation beaucoup plus fouillée entre les deux sœurs là-dessus, vrai. Entre la jalousie.
Avant d'en finir sur ce film, je vais revenir quand même là-dessus. C'est d'accord que tous les personnages masculins sont quand même des salauds, quoi. Je veux dire, j'ai noté. Son père, c'est quand
pas
même.
Pas le médecin.
Oui, à part le médecin, à part le médecin, et qui en plus finit mal, je crois qu'on apprend qu'il se fait piquer son histoire et il se suicide. Alors que merde, t'es médecin.
C'est, donc le médecin, c'est celui qui a écrit Vampire. Ils ont fait bouh, quelle idée de débile.
Voilà, exactement. T'as son père qui est quand même un mec plus ou moins concis du cul, qui dit non, la vie c'est comme ça, faut pas bouger. Son mec, là, donc Shelley, il a abandonné sa femme et sa fille, je crois que même sa femme se suicide au bout d'un moment pendant l'histoire, tellement c'est un enfoiré. Il trotte sa femme, il dit mais bien sûr que tu vas écrire un chef-d'œuvre un jour, bien sûr ma grande, mais il y croit pas vraiment jusqu'à ce qu'elle écrit Frankenstein. Et le pire, c'est Lord Byron. Lord Byron, qui est vraiment l'enfoiré de base, et qui en gros des filles et qu'on n'a rien à foutre. Il y a même une scène, je crois que c'est une scène mais vraiment toute musicale et tout, t'as la sœur qui s'est embrassée, puis il la repousse, elle tombe par terre. Enfin, le traitement de l'homme, le message de ce film, c'est quand même les hommes sont des méchants.
Non, à cette époque-là, Marie. Être une femme, c'était quand même chaud.
Et mais j'ai pas dit le contraire.
Les hommes avaient tous les droits et je trouve que c'est quand même bien restitué, justement, dans cette quête de liberté impossible et même dans sa recherche de publication. Les éditeurs, c'est tous des hommes, c'est terrible. Je te rejoins pas trop sur ce point-là. Et moi, j'aimerais juste parler de finir. Quelque chose. Pour finir, c'est que je n'avais jamais lu Frankenstein. Je l'ai lu. J'étais quasiment à la fin quand j'ai été voir le film. Et pour moi, Frankenstein, c'était pas grand-chose à part un zombie débile qui parlait pas. Et quand on lit le livre, on se rend compte que ça ne parle absolument pas de ça. C'est vraiment la créature de. Déjà, Frankenstein, c'est le médecin qui a créer la créature. Mmh. Et cette créature-là est douée de sentiments, de paroles, elle s'exprime extrêmement bien. Et c'est un être bon qui, parce que le médecin, au moment où il ouvre les yeux, l'abandonne, devient triste et cruel. Parce que, voilà, il a été abandonné, il a vécu cette première souffrance. Et donc, c'est pour ça que ça entre en résonance avec l'histoire de Marie Shelley. Et je me demande, quand on n'a pas lu ce livre, est-ce qu'on peut vraiment bien comprendre toutes les subtilités de l'écho entre la vie de Marie Shelley et son œuvre?
C'est la même question, est-ce que quand tu vois Avenger, il faut avoir vu les 18 films Marvel avant, quoi. C'est un peu le même genre. Camille, c'est vraiment pour finir. Hein.
Oui, mais je pense que oui, on peut comprendre le film parce qu'ils le disent clairement, qu'il y a un parallèle entre... Et oui, d'ailleurs, il fait son mea culpa, à la fin, son copain, Marie, il dit que c'est à cause de lui qu'elle a créé ce livre, et en même temps, bon, bah, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Est-ce que c'est pas une bonne chose, finalement, hein.
C'est grâce. Ok, bon, tour final sur ce film, Camille.
Je vous le conseille.
Ok, Sarah.
Moi aussi.
Ok, c'est bref. Marie ?
Moi, je le recommande chaudement. J'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Je trouvais ça moyennasse, trop long. Et puis, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un bon film non plus. Pour moi, on est juste de la définition du moyen. On enchaîne avec Black Klansman, écrit par Spike Lee, David Rabinovich, Charlie Watchell et Kevin Wilmott. Et c'est... j'ai oublié qui. C'est Camille qui nous le pitch.
Oui. Donc, on est en 1978 et Ron Stallworth est le premier flic noir du Colorado Springs, qui est une petite ville des États-Unis. Et une petite ville qui est encore du sud et qui est encore extrêmement raciste. Et il est d'abord relégué aux archives, où il fait un peu rien toute la journée. Et il finit quand même par intégrer un groupe de police qui fait l'infiltration. Et il se retrouve à infiltrer une branche du Ku Klux Klan en se faisant passer pour un suprémaciste blanc au téléphone. Et du coup, c'est son collègue blanc, Flip Zimmerman, qui est juif. C'est important plus tard dans l'histoire, mais en fait, je pense que je ne vais pas l'expliquer dans le pitch. Mais le bien. Qui se fait passer pour lui. Fiona, donc, oui, ensemble, en fait, le duo, Ron et Flip, vont démonter le réseau, la branche locale du Ku Klux Klan et empêcher une attaque contre un rassemblement d'étudiants noirs qui protestent contre le racisme dont ils sont victimes. Et à la fin, il y a un parallèle qui est fait entre les attaques dont les étudiants noirs sont encore victimes, en 1978, mais encore malheureusement aujourd'hui sous Trump. Donc voilà.
Ok. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes scénaristiques dans ce film. Et je vais commencer par une question simple. Est-ce que ça sert à quelque chose qui continue la double identité ? À partir du moment où il arrive à prendre contact avec le mec du Ku Klux Klan et qui dit « bon bah toi, donc c'est Flip », qui dit « je vais prendre ton rôle », pourquoi est-ce que c'est pas lui qui répond au téléphone ? Tout le concept, pour moi, repose sur une erreur qui peut être facilement réparable.
Oui, surtout qu'en plus, il le dit, c'est-à-dire qu'il y a une séquence où ils lui disent « mais attention, quand il va rencontrer ton collègue blanc, il va se rendre compte que c'est pas la même voix ». Et du coup, en fait, là, la solution scénaristique basique, enfin, même logique, pas scénaristique, logique, c'est de dire, en fait, on va changer. C'est l'officier blanc qui va parler au téléphone et puis qui va aller sur le terrain. Donc, c'est vrai que de base, ça pose beaucoup de questions sur la suite du film.
Ça aurait marché si, Ron, s'il avait un bagout extraordinaire et que seul lui aurait pu faire quelque chose au téléphone. Mais c'est pas le cas, Claire. Ouais.
Je tiens à préciser que c'est une histoire vraie,
oui,
quand même.
Et en fait,
oui, mais ça.
Non, mais je
pense les gens font des vraies conneries dans la vraie vie.
Non, mais je tiens à préciser. En fait, je pense que dans la vraie vie, ce qui s'est passé, c'est que le policier noir avait justement, comme tu dis, un bagout extraordinaire et qu'il a bien réussi à y retourner la tête des gens du
Coup. C'est que ça devait certainement y avoir. Il devait y avoir une caractéristique qui était certainement son bagout ou qui a fait qu'ils l'ont laissé ce poste-là et qu'ils avaient vraiment besoin de lui. Et moi, c'est un des soucis que j'ai effectivement sur comment l'intrigue démarre. C'est qu'on voit pas vraiment quelle qualité il a plus que les autres.
Oui, c'est absolument
pour
pas
tenir
montré,
ce poste.
C'est absolument pas montré dans le film. N'importe qui aurait pu faire ce qu'il a fait. Cédric.
Oui, peut-être tout simplement qu'en fait, c'est le seul qui ose. C'est-à-dire que c'est le seul qui a le culot pour le faire.
Oui, mais
au
début.
Le font pas.
Au début. Au début. Oui, mais après, une fois qu'il. C'est d'accord, c'est parce que. Comment démarre l'histoire ? Il lit le journal, il dit tiens, je vais les appeler. L'histoire commence comme ça, quand même.
Lui-même n'y croit pas, et en fait, ça marche, il obtient.
Mais je suis d'accord avec toi, ok, il y a le bagout de le faire, mais après, logiquement, le plus simple pour éviter qu'il se fasse griller, c'est quand même assez dangereux, ça aurait été que la personne qu'il y a, c'est la même qui répond au téléphone. Voilà, Marie.
Mais on comprend même pas pourquoi il a cette idée d'appeler le Ku Klux Klan. Parce que à un moment.
Il lit le journal.
Mais oui, il lit le journal, mais personne dans le bureau de police dit ah là là, on pense qu'il se prépare une attaque. On voit pas pourquoi c'est une menace. Et d'ailleurs, quand il raccroche au téléphone, tous ses collègues se foutent de sa gueule. On dit mais pourquoi t'as fait ça ?
Oui, mais surtout pourquoi est-ce qu'il donne son vrai nom ?
Donc quand il donne son vrai nom, alors qu'il se fait passer pour quelqu'un d'autre, on se dit ce mec n'est pas du tout un génie, ça a l'air d'être un débile profond. Donc c'est vrai que
c'est un rookie. Lui, c'est un bleu. C'est surtout pour ça qu'il a fait une bêtise.
Non, mais il y a une différence entre un rookie et puis filer ton vrai nom à une bande de nazis. Quoi.
Non, mais
quand t'es noir.
Il débarque, on le met dans le département d'infiltration, il connaît pas les règles, c'est un rookie, donc forcément il fait des erreurs. Mais par contre,
encore plus loin, s'il connaissait vraiment rien, il pourrait prendre des risques inconsidérés, faire des choses folles. Là, tu sais même pas tellement pourquoi il le fait.
Bah là, moi, je vais rebondir là-dessus. C'est ce qu'on te dit, il devrait prendre des risques, etc. Moi, c'est le problème principal que j'ai eu avec le film. C'est que même s'il y a plein de choses à prendre, il y a des choses. Enfin, voilà, il y a vraiment des passages qui sont très bien, des scènes qui sont impressionnantes. L'intrigue en soi, moi, m'a extrêmement déçue parce que je m'attendais justement à un vrai scénar d'infiltration avec des rebondissements, une vraie quête, des obstacles. Enfin, et au final, il se passe surtout. pas grand-chose, jusqu'à la fin où il y a donc cette femme qui est une des femmes d'un des membres du Ku Klux Klan à qui on charge d'aller poser une bombe chez une des étudiantes. Et bon, elle y va, elle a du mal à poser sa bombe, et puis finalement, il l'arrête à la dernière minute. Bon, il n'y a que la voiture d'ailleurs des mecs du Ku Klux Klan qui explose. Il y a juste ce moment-là de tension, et le reste du film est extrêmement lent. Il se passe très peu de choses, et j'ai manqué vraiment d'une vraie intrigue qui corresponde pour moi au genre du film d'infiltration. Okay.
Camille ?
Je suis d'accord avec Marine. Et en plus, l'histoire réelle, c'est-à-dire le Ku Klux Klan, ça arrive beaucoup. Bien après, parce qu'il y a une grosse partie du film où il est un peu dégoûté parce qu'il ne fait rien. Puis après, il infiltre le Black Panther Movement. Et ça lui permet de rencontrer sa petite amie, et d'avoir peut-être un contrepoids par rapport au Ku Klux Klan. Mais du coup, c'est vrai que l'intrigue commence très tard. Et les conflits sont vachement désamorcés. Je pensais qu'il y aurait une vraie confrontation physique, et il n'y en a pas une seule.
Non mais je suis d'accord, c'est bizarre, c'est un des rares films où c'est le milieu qui est le meilleur. Ouais. C'est-à-dire le début est trop long, la fin est ridicule, et le milieu est plutôt pas mal. Toute cette espèce de montée, que le mec il prend du galon, et que la montée, on sent qu'un des mecs du Ku Klux Klan, dont j'ai oublié le nom, pas le premier, mais le bras droit, sent qu'il y a un problème avec lui, et tu sens cette espèce de Félix, voilà. Il sent qu'il va monter, qu'il va l'avoir, mais tout le début, comme tu dis, quand il infecte le Black Panther, ça ne sert à rien, si ce n'est lui donner une petite intrigue amoureuse pour lui donner un enjeu pour la scène finale. Mais on y reviendra à cette scène finale. Cédric.
Mais moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a de la tension quand il passe au détecteur de mensonges, justement, avec Félix.
Il y a cette scène-là, je suis d'accord.
Il y a quand même, c'est là, enfin, et après, je pense que justement, le principe, c'est de se remettre dans le contexte de l'époque. Et que si personne n'infiltre le Ku Klux Klan, c'est parce qu'on voit qu'il y a des liens entre la police locale et le Ku Klux Klan. Et que lui, quand il débarque, c'est le seul qui remet ça en cause parce qu'il est noir, et que c'est le seul noir.
C'est
dans
pas
le...
montré ça dans le film. Ouais, les liens entre le
policier et la police.
Tu le vois à la fin.
Il a un collègue policier qui.
Non, il est raciste. Il a un collègue policier raciste.
Tu le vois à la fin. Je
pars en même temps.
Je suis un seul en plus.
Et qui est soupçonné d'avoir arrêté des militants des droits civiques et de les avoir passés à tabac, puisque sa petite amie lui raconte ça.
Oui, mais il n'est pas soupçonné d'être faire partie du Ku Klux Klan. Donc c'est assez lointain finalement. Ouais.
Pour moi, c'est montré qu'à la fin, clairement.
Pour moi, il n'est pas. D'ailleurs,
la seule séquence où clairement on t'explique que le gouvernement a des liens avec le Ku Klux Klan et que si jamais il enquête là-dessus, de toute façon, ça ne sera jamais mis à jour, c'est à la fin quand on lui demande de détruire tous les documents qui sont en rapport avec son enquête. Et là, c'est très clair. Non. Mais moi, j'ai jamais vu, enfin, de mon point de vue, on ne voit pas dans le film, dans le reste de l'histoire, cette relation entre les officiers de police.
Oui, je suis d'accord. Quasiment la dernière scène où il y a son pote, justement son flic raciste, qui se fait choper. Il se fait choper de quoi ? Il va avoir un blâme. Il a rien fait de grave. Il a juste insulté un collègue de façon raciste. Mais c'est pas. J'ai l'impression qu'il termine cette intrigue en disant c'est bon, on s'est occupé du mec, il nous fera plus jamais chier. Non, c'est faux. Claire.
En fait, je pense que le manque de tension sur la fin vient du fait qu'il voulait garder cette scène où, au téléphone, c'était bouclé et où il disait donc au grand sorcier du clan, là, c'est comme ça qu'on les appelle, The Wizard. Comment on reconnaît un noir finalement ? Et en fait, il voulait vraiment garder cette scène-là. Et du coup, on s'est privé d'une scène qui aurait pu être vraiment super dans cette salle-là où il est entouré, mais que de suprémacistes. Enfin, c'est glaçant comme scène. Et en fait, on le plante là et puis ils partent poser leur bombe. Et c'est hyper dommage parce que vraiment, cette scène-là, il y avait tous les ingrédients pour que ce soit vraiment.
Non, mais attends, elle est ridicule cette scène. Je veux dire, il charge un flic d'aller chercher. Le chef des Ku Klux Klan des États-Unis, ils envoient le seul noir qu'ils ont.
Oui, ça c'est.
Et non, mais ça pourquoi ? Parce que tu sens le scénariste qui dit il me faut une scène où il y a les deux qui sont dans la même pièce. Et donc du coup, je vais envoyer le vrai Ron par rapport au faux Ron. Non, mais ça ne marche pas du tout.
Il le justifie par provocation, en fait. C'est-à-dire que c'est le flic blanc raciste qui fait en sorte que ce soit lui qui s'en occupe.
Il se moque de lui, il dit personne d'autre n'est disponible, mais c'est le chef qui pourtant était caractérisé pas quelqu'un de sympa, mais quelqu'un de raisonnable, et il fait une erreur grossière d'envoyer un flic noir protéger un mec du Ku Klux Klan. Enfin, et cette dernière scène, pareil, comme on dit, les conflits sont désamorcés, il y a un mec qui enfin reconnaît Flip pour qui il est, Il dit, oh là là, ça y est, enfin un peu de tension. Et il commence un peu à le faire chier. Dinet, dis donc, on ne s'aurait pas déjà vu et tout. Ah non, pardon, faut qu'on aille poser une bombe. Il se lève, conflit terminé.
Oui, c'est ça que je, c'est de ça Claire. Dont je parlais en fait.
Voilà, c'est pas possible. Enfin, pour moi, la fin est incroyablement mal écrite, Marie.
Je trouve aussi qu'il y a un gros manque d'émotion et d'empathie parce que moi, ce que j'aurais aimé, par exemple, c'est que ce flic noir devienne presque ami avec ce suprémaciste blanc, puisque l'histoire quand même, enfin moi comme on me l'a pitché, c'est qu'ils tissent des liens au téléphone, vraiment ils deviennent amis, d'ailleurs quand ils se rencontrent en vrai il est très content de le voir, et finalement si on avait eu cette amitié impossible, improbable entre deux hommes qui dans la vraie vie ne peuvent pas s'aimer, ça nous aurait donné à la fin de vraies émotions, là ça fait pchit.
Ouais. Et alors on va parler de la fin aussi, parce que à quoi servent en fait toute cette infiltration, parce que si on part du principe qu'ils n'avaient pas été là, l'attentat aurait quand même échoué, parce que à aucun moment le Ron n'empêche la dame de mettre la bombe sur la voiture. C'est-à-dire qu'il soit là ou pas, elle aurait quand même mis la bombe sur la voiture. Donc les mecs seraient quand même arrivés, ils seraient quand même fait péter. D'ailleurs, excusez-moi le déus, les mecs se placent juste à côté de la voiture où il y a la bombe, tous les problèmes sont résolus d'un seul coup, mais qu'ils soient là ou pas, ça n'aurait rien changé.
D'ailleurs, ils ne résolvent jamais leur enquête. Finalement.
Je suis d'accord, parce qu'à la fin, il y a une scène où ils dansent en disant c'est bon, on a réussi tout. Non, vous n'avez pas réussi. Vous avez tué les trois mecs les plus cons du Ku Klux Klan, mais le chef local, il est encore là, hein, il va encore recruter. Claire.
Non, en fait, j'ai vu le film il y a longtemps, donc je ne me souviens pas bien, mais il me semble qu'en fait, ils voulaient poser la bombe dans le groupe d'étudiants, enfin, dans le groupe de manifestants, et ça, il les en empêche. Enfin,
à quel moment? Ah, en envoyant des voitures, peut-être.
Claire a parfaitement raison, parce qu'il envoie la police, et à cause de ça, ils font le plan B. Oui.
Non, c'est pas parce qu'au moment où ils font le plan avec le sac, avec le sac et la bombe, il dit, tu la poses à côté de la maison, n'importe où, ça suffira. Donc clairement, ils étaient déjà en train de parler du plan A.
Non, il me semble qu'ils visaient les manifestants. Ah, bah, et ils peuvent pas parce qu'il y a la police. Parce que Ron les a prévenus.
D'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'il parle de tu poses la bombe à côté de la maison, n'importe quel mur suffira. Peut-être qu'il parlait du plan B, mais en tout cas, alors, c'est mal fait. Oui, Marine.
Pour changer un peu de sujet, j'ai eu l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de beaucoup de monologues, en fait, qui sont certes très intéressants, mais et ça fait partie de mon problème avec l'intrigue, c'est que j'ai eu l'impression de passer de monologue en monologue de personnages qui délivrent un message, qui visiblement voilà, qui est très d'actualité, qui est intéressant, mais ça n'avance pas, pour en arriver à cette fameuse séquence de fin où ça monte un petit peu en tension. Et je pense que Claire, justement, quelque chose à dire à ce sujet.
Claire.
En fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a deux films en un. Ouais. C'est-à-dire, il y a le film qui est l'adaptation du livre sur l'infiltration, et il y a le film de Spike Lee. C'est-à-dire, le film que Spike Lee aurait voulu faire, un film plutôt documentaire, plutôt nouvelle vague, où on parle des Black Panthers, où on parle des témoignages des Afro-Américains et des souffrances qu'ils ont subies dans l'histoire, etc. Et ce qui est très intéressant. Le problème, c'est que je trouve qu'il n'a pas mêlé les deux de façon organique. Du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y avait un scénario de base et que Spike Lee a regardé le scénario et fait « Alors, où est-ce que je peux mettre mon monologue ? Là, à cet endroit, tiens. Et puis mon autre monologue, là, à cet endroit. Et puis là, on est vraiment très, très émus. Ah oui, beaucoup d'émotions. » Et en fait, j'ai juste l'impression de voir un film américain classique, d'un côté, bon, certes, comédie, buddy movie plutôt, et de l'autre côté, un film, je ne sais pas, de Godard, en fait. Hyper, non mais vraiment, de je ne sais pas qui. Et en fait, c'est tellement la meilleure façon de... c'était parler du Black Lives Matter, etc. Ouais. Et la meilleure façon de parler de ça, en ce moment, dans les séries, ils en parlent beaucoup. Et c'est hyper touchant. Et c'est toujours amené d'une façon très intelligente. Et là, en fait, Spike Lee nous le colle, mais vraiment nous le colle et nous prend pour des abrutis. Genre, si je ne vous l'explique pas, vous ne pouvez pas comprendre, bande de débiles. T'inquiète pas, on est un peu plus... En fait, moi, personnellement, j'ai aimé le film sur... le film sur l'infiltration, le premier film. J'ai pas aimé le film de Spike Lee. Parce que j'ai trouvé qu'il nous prenait vraiment pour des...
Oui, non, mais je suis d'accord. À la fin, il nous met des images d'archives. Et à la fin, il y a quand même le drapeau américain qui est à l'envers, en disant quelque chose qui n'a pas dans ce pays.
La fin, je l'ai bien aimé.
Oh non, Cédric.
Ben moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a deux films, mais que c'est complètement, à mon avis, maîtrisé de la part de Spike Lee. C'est exactement ce qu'il veut faire. Il veut nous amener en salle pour voir une comédie policière.
C'est pas une comédie.
Et en fait, oui, attends, il nous sert un film militant qu'on serait pas allé voir si ça avait été annoncé comme ça.
Oui.
Et Marine, donc, une fois qu'on est pris en otage dans la salle, entre nous, hein, tu avais bien aimé le film.
Bonne technique.
En tout cas, oui, on sent que.
Tu avais le droit de sortir.
Il y a un côté un peu roublard, peut-être. Mais pour moi, c'est réussi.
Et attends, Marine, juste que je donne la parole, quand même, ce qui me paraît presque pas dangereux, j'exagère, mais c'est que le Ku Klux Klan est quand même peint comme tous des abrutis, quoi.
Non, je veux dire,
à part le chef qui vient en plus ne s'en sort pas, rappelez-vous des espèces de gros lards là qui est complètement débile, qui sur le nez,
c'est très réaliste,
une version. En fait, il y a les trois visages, même les quatre visages du Ku Klux Klan et des racistes, en fait, et ça, moi j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Il y a l'abruti profond, le redneck pas possible, il y a le psychopathe, c'est Félix. Il y a le mec un peu intelligent, mais un peu raté, tu vois, le mec un peu loser. Tu sens qu'il s'est fait quitter par sa femme. Tu sens que c'est un mec qui a fait un peu des études, mais
quoi,
il
Félix
a... non, le chef.
Ah, le chef, oui.
Le chef, mais qui a pas de charisme, qui n'y arrive pas, qui est un peu minable, quoi. Tu sens que c'est un mec frustré dans sa vie. Et puis, évidemment, tu as Doug, là, qui, pour le coup, j'aurais bien aimé voir un méchant un petit peu plus machiavélique.
Il n'est pas très charismatique, alors que c'est lui qui est censé être le chef.
Exactement.
Entre guillemets.
Oh, c'est dur, j'ai bien aimé. Moi.
Je trouve que c'est justement ça qui est assez riche dans le film, c'est que c'est assez nuancé, les personnages, et le racisme est bien réparti, entre guillemets, si je peux le dire. Mais même dans le commissariat aussi. D'ailleurs, il a tellement voulu éviter l'écueil de dire tous les blancs sont racistes qu'il n'y a qu'un seul véritable raciste dans le commissariat, alors qu'à mon avis, il y en a beaucoup plus que ça. Mais bon.
Probablement. Allez, on finit avec toi, Marine.
Juste, c'était pour revenir sur ce que tu disais, que c'est... En fait, les journalistes l'ont vendu comme une comédie. Enfin, moi, j'ai entendu parler du film comme une comédie. Je ne trouve pas du tout que ce soit une comédie. Non. Je trouve qu'au contraire, même si effectivement, dans les Ku Klux Klan, il y en a beaucoup qui sont assez
débiles. Léger.
Et voilà. Je trouve que c'est assez réaliste. C'est assez glaçant, même. Enfin, j'aurais juste cité quand même cette scène que moi j'ai trouvé vraiment incroyable quand le Ku Klux Klan, donc le groupe de Ku Klux Klan, se retrouve pour regarder le film de D.W. Griffiths, Naissance d'une Nation, et qu'ils regardent ça comme si, voilà, avec les pop-corns.
J'ai trouvé que cette scène,
elle était vraiment incroyable et d'une puissance. Enfin, ça remet quand même le film en contexte. Ce film qui a été mis au panthéon du cinéma, je trouve que ça remet quand même les choses très en contexte. Beaucoup de scènes fortes en fait dans le film, mais c'est vrai que ça manque de lien. Quoi.
Et qui commence d'ailleurs, le film commence d'ailleurs par la scène de Autant n'emporte le vent.
Ah, c'est bien, Autant n'emporte le vent, j'avais bien reconnu.
Avec le drapeau sudiste, etc.
On termine tour final sur ce film, Camille.
Je pense que je le recommande quand même.
Mais mollement.
Ça dépend ce que vous voulez voir. Si c'est un documentaire.
Regardez, il doit y avoir probablement un documentaire sur ça.
C'est un début d'infiltration, sans la fin. Bah, allez-y aussi.
Ok. Cédric ?
Moi, qui ici a vu le documentaire de Spike Lee sur Katrina ?
Non.
Bon, et ben, donc, regardez, il a réussi parce que s'il avait fait un documentaire. Personne ne serait allé le voir.
Bien joué.
Et donc, il a fait Black Klansman et on est tous allés le voir.
La vache.
Belle démo.
Belle démo, là, bravo. Marie ?
Moi, je le recommande pas. J'ai trouvé que c'était un film foutraque. Je savais pas tellement ce qu'on voulait me raconter et je trouve ça dommage.
Ok, Marine ?
Moi, je le recommande parce que, quand même, ça parle de choses très importantes. Il y a des scènes très fortes et le sujet est très fort. Voilà, il y a des problèmes de scénario, d'intrigue, je trouve, mais je le recommande vraiment.
Ok, Claire ?
Oui, moi aussi, j'ai dit les points négatifs, mais en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de points positifs dans ce film et je l'ai globalement vraiment beaucoup aimé.
Moi, je trouve qu'il y a des erreurs de scénario presque impardonnables dès le début, où j'y crois plus. Et on n'est quand même pas loin du Gérard du film qui t'explique que le racisme, c'est pas bien, quand même.
C'est comme la mafia italienne.
Ouais, la mafia italienne, c'est pas bien non plus. Ouais. On termine avec Burning, hein, le petit film un peu chiant de la semaine. écrit par.
On a perdu tout. Merci Guillaume.
Non, en fait, c'était très bien. Ou pas. Écrit par Lin Chandong et Hong Joong-mi. Et c'est Marine qui nous pitch.
Oui, alors Burning, donc l'histoire se passe en Corée du Sud où Jong-soo. Ça, Jong-soo s'appelle le héros.
Oui, Jong-soo. Oui.
Jong-soo, donc, est un jeune homme, je pense, à peu près dans la vingtaine. Donc, il tente de survivre à coup de petits boulots et puis surtout de longues périodes de chômage. Et au début du film, il rencontre Amy, qui est une jeune fille en fait, qu'il a connue quand ils étaient enfants. Ils vivaient ensemble à la campagne. Ils se mettent à sortir ensemble, ils tombent amoureux, enfin lui surtout, parce que quand Amy part, enfin à un moment elle part en voyage en Afrique, et quand elle revient, elle est accompagnée par Ben, qui est un jeune homme, un jeune coréen, mais qui lui est très riche, qui n'a pas vraiment besoin de travailler, et qui en fait passe un peu sa vie à s'amuser. Les trois deviennent assez proches, même si Jung-Soo en fait est assez jaloux de Ben et de la relation forcément qu'il entretient avec Amy. Et sauf qu'un jour, Amy disparaît. Et Jung-Soo pense que c'est Ben qui l'a assassinée. Et donc à partir de là, il va tenter de confondre Ben, puisqu'il est persuadé de sa culpabilité. Et à la fin du film, pour aller plus vite, eh bien, il le tue.
Voilà. Alors, je crois que c'est le podcast dernier, Fiona disait que le cinéma italien lui en voulait. Je crois que c'est le cinéma asiatique, moi, qui m'en veut cette année. Parce que je me suis ennuyé comme rarement au cinéma. Je n'avais pas internet dans cette salle, donc je n'ai même pas pu traîner sur mon téléphone. Pour vous expliquer, je trouve que ça devrait être interdit, les films où il y a des scènes sur des mecs dans des métros ou des bus qui dodelinent de la tête comme ça, et c'est filmé. Juste, c'est filmé sur leur visage pendant qu'ils regardent par la fenêtre. Et pendant 40 secondes, il ne se passe rien comme ça. Ça devrait. Si dans un film il y a ça, on devrait tous sortir de la salle et refuser de voir la fin. Ça va.
Non, mais je trouve que la manière dont Marine l'a pitché, ça a l'air hyper bien ficelé. Il y a une vraie histoire. Et c'est vrai, en fait, il se passe toutes ces choses que tu as dites, mais entre tout ça, il y a quand même beaucoup de questionnements. En fait, le problème pour moi principal de ce film, que j'ai peut-être bien aimé, je me pose la question.
On va te faire changer d'avis.
Je vais réfléchir. C'est qu'on est tenu trop à distance des personnages, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le personnage principal n'est peut-être pas le bon. En tout cas, c'est quelqu'un qui retient énormément ses émotions. Ce jeune homme, on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut faire, il est très passif. Et alors que Amy, c'est quand même le personnage pour moi le plus intéressant du film, parce qu'elle est, flamboyante, elle a des rêves, elle est joyeuse, elle est active et elle fait un boulot pourri, elle danse pour une tombola et en fait elle rêve de partir en Afrique. Enfin, en gros, elle a une vie intéressante, ce qui n'est pas le cas de Jung-Soo qui lui, en fait, ne fait rien à part suivre vaguement le procès de son père, essayer de suivre un peu Amy et il tombe amoureux d'elle, mais ça va pas plus loin. Donc c'est un peu dommage. Et Ben, pareil, on sait jamais vraiment qui il est. C'est-à-dire, c'est un mec riche. C'est la seule chose qu'on sait. Et il aime trouver des nanas un peu paumées. Et c'est un peu le dîner de cons et les humilier devant sa bande de potes riches.
Moi, c'est la scène que j'ai préférée dans le film. C'est vraiment la scène, en fait, tu te dis, ah ouais, c'est le dîner de cons. Donc, il ramène, pour expliquer, pour mettre en contexte, il ramène Amy et Jung-Soo. Il leur dit, venez dîner avec moi et mes amis. Et pendant le dîner, tu réalises qu'ils sont en train de se foutre de la gueule d'Amy, qui est justement cette jeune fille flamboyante, mais qui pour eux est juste ridicule. Et la scène est vraiment forte, bien tournée. Il y a une tension qui monte, j'ai trouvé, mais. Ah bon, c'est vrai qu'au-delà de cette scène,
les meilleures scènes, c'est quand même en effet sur les inégalités sociales
qui sous-tendent tout le sujet en fait du film.
Ouais, avec 12 000 autres sujets qui sont la frustration, la jalousie, la solitude, l'amour. Enfin, c'est quand même un melting pot de plein de choses.
Ce que disait le réalisateur, lui, le sujet qui lui a plu, parce qu'à la base c'est un bouquin de Murakami, il me semble, qu'il a adapté, et je crois que le sujet qui lui a plu et dont il voulait parler, c'était les inégalités sociales et la colère de la jeunesse qui est au chômage et voilà et qui n'a rien à faire. Sauf que hormis cette scène-là dans le restaurant, la scène du dîner de con, c'est très peu évoqué, c'est très peu montré, et effectivement, on se perd dans tout un tas d'autres sujets qui n'ont pas vraiment de rapport. Et moi, vraiment, j'ai du mal à suivre l'intrigue parce qu'il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'inconnus, ne serait-ce que sur la culpabilité de Ben, qui finalement n'est jamais vraiment prouvée. Attends, je termine. En fait, il expliquait que pourquoi il a choisi le bouquin de Murakami, c'est parce que justement, ça l'intéressait toutes ces inconnues dans la structure narrative de l'histoire. Le problème, c'est que quand tu regardes le film, franchement, tu comprends pas grand-chose. Enfin, résolu le problème.
Je suis pas d'accord avec toi. On comprend tout, c'est juste qu'on s'ennuie mortellement. Mais le principe du film, enfin pour moi, tout le livre, c'est est-ce que oui ou non il a tué cette fille.
Oui, c'est vrai,
on ne peut pas avoir de certitude absolue. Non. Mais oui, tout est basé sur l'ambiguïté. Mais j'ai envie de dire, il a quand même des indices. Enfin, il y a des indices solides. C'est-à-dire qu'il trouve. Si, parce qu'il dit le chat. Il dit est-ce que le chat existe vraiment? Il a trouvé ses crottes. Donc oui, il existe. Les chats répondent par leur nom. Il trouve la montre de cette meuf dans son panier. Non, mais laisse-moi finir. Et quand il lui dit, parce que. on peut supposer que Ben fait une métaphore du meurtre en disant j'adore brûler des serres, et qu'on part brûler des serres, oui. Il dit j'aime tuer des gens, et après quand donc, il vérifie partout, il n'y a aucune serre qui est brûlée, et après qu'on dit oh, il y a Amy qui a disparu, il fait oui, elle est peut-être partie en fumée, clin d'œil, clin d'œil.
Mais c'est complètement ambigu pour moi, il n'y a rien qui est solide.
Ah non, mais
c'est ambigu, mais c'est filé, mais je pense que c'est fait exprès. Mais je par exemple, dit... alors, pour les indices, il n'y en a que deux. Donc le chat, bon, rien ne prouve que ce n'est pas juste un chat très friendly qui vient faire un câlin, quand, même s'il l'appelle par un prénom.
Juste,
et
moment,
prénom.
Juste au moment où tu l'as par son
ouais,
prénom. Quoi.
Bah, il l'appelle, donc il répond, je veux dire.
Non, non, c'est pas vrai.
Alors si tu arrives à utiliser un chat comme preuve convaincante dans un procès, tu
n'as pas dit que c'était une preuve.
Tu reviendras. Et ensuite, la montre, t'en sais rien, c'était sa copine, elle a peut-être oublié sa montre chez lui. Il n'y a rien qui tient au cours d'un procès.
Attends, juste. Évidemment, c'est fait pour ça. J'ai pas dit que c'était des preuves, j'ai dit que c'était des indices. Et j'ai envie de lui dire, va voir les flics, plutôt au lieu de l'attendre dans un champ et de le planter avec son couteau.
Oui, mais pourquoi
c'est
il court
Marine,
mais,
ça, aucune mais, preuve
mais,
ne tient.
Mais le but, n'est pas d'avoir une preuve. C'est le boulot de la police. Va voir la police et eux, attends qu'ils fassent leur métier. C'est pour ça le plus gros problème.
L'intérêt du film n'est même pas, malheureusement, parce que moi j'aurais voulu avoir des réponses sur est-ce que vraiment Ben a tué Amy, mais l'intérêt de ce film tient plus, malheureusement, dans une espèce de symbolique autour de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Ah oui.
D'ailleurs, dès le début, en fait, Amy, et c'est déjà d'ailleurs une jolie scène, elle fait du mime, elle dit qu'elle prend des cours de mime pour apprendre à mimer ce qui n'existe pas et que tu dois juste oublier que ça n'existe pas.
Ah oui, j'ai oublié
c'est pas vraiment ça. Que tu dois croire que ça existe, c'est juste que tu dois oublier que la chose là n'est pas présente au moment où tu la mimes. Et du coup, ça jette une espèce d'interprétation sur tout le film où on va toujours se poser la question de qui dit la vérité, qui ment. Et même la famille de Amy disent qu'elle ment, qu'elle raconte qu'elle est tombée dans un puits quand elle était petite, en fait c'est faux, qu'elle a un chat mais on voit jamais le chat. Et du côté de Ben, pareil,
on voit ses crottes.
Est-ce qu'il la tue ou pas?
On voit les crottes du chat. Ouais, mais à partir de là, pour moi, le chat existe. Elle va pas chier dans sa propre litière.
Du coup, c'est possible que Amy soit juste partie. C'est possible qu'elle soit juste partie. Comme c'est possible qu'il l'ait assassinée, en effet.
Non,
mais on ne saura jamais.
Je suis d'accord. Évidemment, le film est basé sur le fait qu'on ne sait pas, mais il a suffisamment de faisceaux d'indices pour au moins aller prévenir la police. Va prévenir les flics. C'est ça que je reproche le plus à ce personnage. Parce qu'on a l'impression que pour faire un film subtil, il faut qu'il soit chiant. On a l'impression que non, c'est pas possible. On peut faire un film où on te pose des questions, on n'est pas sûr de la vérité, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, sans que ça soit ennuyeux à mourir. Repense à la scène où elle fume un joint, Amy, et pendant, je crois que la scène dure 5 minutes, elle se fout torse nu. Et elle danse, elle fait des mouvements d'oiseau face au soleil.
Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène.
Mais c'est juste pas possible de voir ça au cinéma.
C'est une scène de réel, c'est très graphique. Quoi.
Mais bon, on est dans un podcast de scénario.
j'ai pas dit que c'était bien. Hein.
Ah, tu n'as pas aimé cette scène non plus?
Bah, je me suis un peu ennuyée. Quoi.
Oui,
bah,
merci.
Pour valoriser les petites choses du scénario qui sont réussies, je trouve qu'il y a plein de petites touches, de petites caractérisations très malines. Par exemple, cette histoire du mime et tout ce qui a trait à la Corée. Ils sont dans un village, à un moment, le village de Jongsu, qui est à la frontière, et on voit des montagnes, c'est très beau, et on entend des haut-parleurs. Et t'as Ben qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils disent, c'est la propagande nord-coréenne toute la journée. Ils ont des haut-parleurs qui balancent de la propagande nord-coréenne.
Ils sont à côté de la ligne de
démarcation. Parce qu'ils sont à la frontière. Et il y a, par exemple, le fait que, qu'est-ce qui la fascine autant en Afrique? Parce qu'elle fait un voyage en Afrique, c'est comme ça qu'elle rencontre Ben. Elle raconte toute une histoire sur les gens qui ont un petit peu faim et les gens qui ont très faim d'une quête de sens dans leur vie, etc. Et en fait, à chaque fois qu'elle raconte ça, elle pleure. Et il y a un côté très mignon, très touchant. Et je trouve que c'est toutes ces petites touches-là, la manière dont elle danse pour la tombola ou le fait qu'elle veuille manger des tripes à la coréenne, enfin tout ce qui a trait un peu à la vie en Corée, qu'elle vit dans une petite chambre où elle dit c'est orienté nord, donc il n'y a jamais de lumière, mais une fois par, une seconde par jour, t'as la lumière qui se reflète sur tel tour et c'est le meilleur moment de la journée. En fait, c'est touchant, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose d'intangible, mais de très précis. Et qui te fait un peu vivre avec eux d'une certaine manière.
Non mais ça encore, c'est les petits moments, j'ai beaucoup aimé. Puis après, il fait l'amour en regardant cette marque du soleil, et après il va
ça
se masturber.
J'ai pas compris.
Bah si, il voit au moment où il lui fait l'amour, d'ailleurs il lui saute dessus. Mais...
Ah, c'est parce que ça lui rappelle le moment.
Ça lui rappelle le moment, oui, c'est-à-dire qu'il couche avec elle, juste il a ce moment, donc il vient tous les jours pour nourrir le chat et se masturber en voyant cette petite lumière parce que ça lui rappelle elle et c'est comme ça qu'il tombe amoureux. Mais typiquement, à quoi ça sert qu'il soit écrivain? Si vous allez me dire oui, mais c'est l'aspect, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux tout ce qu'il écrit? Et à quoi sert l'intrigue du père? Je veux dire, son père dit, l'avocat lui dit, non mais ton père, il dit ton père est un mec, jamais signera ce papier, c'est un mec qui a des couilles comme des couilles de pétanque. Tiens papa, tu peux signer ce papier? Mais bien sûr. Hop, voilà, merci, intrigue finie. Pourquoi?
Pardon,
Camille.
Pour la personne qui n'a pas vu le film, quel père de qui?
C'est le père de Jongsu. En fait, il a agressé un policier, pour la faire courte, et il est condamné, enfin il est en procès, il se fait condamner par un juge.
En fait, le problème, c'est qu'il y a plein de petites intrigues qui n'ont aucun intérêt. Et par exemple... on sait que Jongsu a été abandonné par sa mère quand elle était petite. Et t'as une scène de une minute où il voit sa mère qui débarque comme une fleur dans sa vie.
Qui est vachement bien.
Ah oui.
Et c'est tout.
Et... qui a l'air un peu paumée. Ouais.
On comprend pas à quoi ça
la
sert
scène
dans
parce
le reste
que la
du
mère,
film.
En quelques, la scène est assez courte quand même, et en quelques minutes, elle est caractérisée d'une manière assez hallucinante parce qu'en fait, il lui parle et elle a son téléphone, il y a tous ses textos en fait qui sonnent en même temps, puis elle continue à lui parler comme ça en répondant à ses textos alors que ça fait des années qu'ils se sont pas vus. Ouais. Et juste ça t'explique tout de leur relation. Donc la scène, c'est vrai qu'il y a des petits moments comme ça qui sont très très forts, mais vraiment sur l'ensemble de l'intrigue. Okay.
Eh ben, on s'arrête là. Tour final sur ce film, Sarah.
Je trouve, encore une fois, il y a des scènes qui sont très belles. Il arrive à créer un malaise, justement, sur cette histoire d'inégalité sociale entre ces filles un peu paumées, un peu pauvres, qui sont comme ça, travesties, ridiculisées en public par la richesse sud-coréenne. En même temps, moi, j'ai pas trop accroché à cette symbolique. Donc, je suis un peu passée à côté des émotions de ce film, je pense. Okay. Donc, je le recommanderais pas.
Marine ?
Je le recommande pas. Je pense qu'on peut occuper ces 2h30 d'une manière plus satisfaisante.
Oui, comme tu disais, il y a Amy tout à l'heure qui apprenait qu'il faut faire comme si les choses n'existent pas. Je vais faire comme ce film n'existait pas. Je pense que c'est le message de ce film.
Justement, elle dit exactement l'inverse. Il faut faire comme si elles existaient.
T'as vraiment rien compris.
Alors, je n'ai rien compris. Alors, c'est bon, c'est, quelque part, ça me rassure. On finit avec les recommandations, les dérecommandations de la semaine, Camille.
Je recommande Hippocrate sur Canal+. Au Festival de La Rochelle, il y avait l'épisode pilote. Je l'ai trouvé réussi et touchant. Ils sont plusieurs scénaristes. Mmh. Et j'aurais dû noter les scénaristes, mais ils sont français et ils sont talentueux.
C'est une série française en même temps.
C'est une adaptation du film.
C'est une adaptation du film, tout à fait. Les personnages sont très différents, mais c'est la même arène et ce sont des étudiants en médecine. C'est pas la peine de pitcher.
Non, le pitcher pas. Ouais. Sarah ?
Oui. Moi, j'ai vu au Festival de La Rochelle aussi une série qui va passer sur Arte, qui s'appelle Jeux d'influence, qui est une série de Jean-Xavier Delestrane. Mmh. Et j'ai trouvé ça très fin et très nécessaire. C'est-à-dire que c'est une série politiquement engagée sur les pesticides, le vote de certaines lois ou le problème de certains députés qui, par pression politique ou des lobbies, ne votent pas certaines lois. Et les personnages et les acteurs sont formidables. Donc je vous conseille de la regarder quand elle passera sur Arte.
Ok, Cédric ?
Moi, je vais parler d'un livre alors, pour changer, qui s'appelle « Comment j'ai fait 100 films sans perdre un centime ». C'est « Mémoire » de Roger Corman, le producteur-réalisateur, qui est surtout connu pour avoir fait des séries Z, mais qui a aussi, au passage, lancé plein de cinéastes de la nouvelle vague américaine, comme Coppola, Scorsese, et découvert plein d'acteurs, Nicholson. Et voilà, et c'est très drôle comme livre, et ça se lit tout seul. Et c'est aux éditions Capricci, voilà, très bonne maison d'édition. Plein de livres sur le cinéma.
Ok, Marie ?
Alors, moi je recommande Frankenstein de Mary Shelley parce que j'ai trouvé que c'était un livre sublime et très loin donc de l'image préconçue que j'en avais. Et je pense que c'est intéressant à lire une fois dans sa vie. Voilà.
Ok, Marine ?
Alors moi je vis dans ma cave, hein, donc je n'ai pas vraiment de recommandations. Par contre j'ai lu les pitchs de toutes les séries qui étaient à La Rochelle, mais je ne les ai pas vues. Mais il y en avait une qui a l'air très intéressante, donc je ne sais pas si vous la voyez, vous pourrez me dire si c'est bien. C'était HP, je trouvais que c'était un pitch très intelligent, donc sur une nana qui entre comme médecin psychiatre dans un institut psychiatrique. Et il y avait tout un pitch en fait sur ce que c'est que la folie, ce que c'est que la différence entre la folie et être sain. Ça avait l'air extrêmement intelligent et intéressant, donc j'aimerais bien voir cette série.
Ok. Claire ?
Juste pour préciser, c'est écrit par deux élèves de la première promo de série télé de la FEMIS qui sont Angela Soup et Sarah Santamaria Mertens. Et ça a eu le prix de la meilleure série, je crois, 26 minutes.
Mais j'ai bien repéré alors.
Bravo. Bravo. Claire ?
Je vais recommander une web-série qui est sur YouTube, sur la chaîne de Y-Penser. C'est une web-série qui s'appelle RL3. C'est sur des gens qui se retrouvent dans tout habillés de blanc dans une pièce. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là.
Il n'y a ni porte ni fenêtre.
Juste un papier peint très étrange et très élégant à la fois. Et la lumière s'éteint, s'allume. Et selon la lumière qui s'éteint, qui se rallume, il y a de nouvelles personnes qui apparaissent, qui disparaissent. C'est très intriguant, très bien écrit. Ça fait un peu penser à Black Mirror dans l'univers. C'est vraiment une bonne... C'est une web-série, c'est sur la chaîne...
Ça dure combien de temps, les épisodes ?
C'est 6 minutes à peu près, et en tout, ça doit faire... Il y a une saison de... Ça doit faire 40 minutes, quelque chose comme ça.
Ouais, non, il y a 7 épisodes de 7 minutes à peu près. Donc, c'est vraiment... Voilà. Je le recommande aussi. J'ai beaucoup aimé. Et ben moi, je vais recommander un jeu vidéo, évidemment. C'est Mr. Shifty qui est sorti sur PC l'année dernière et c'est un jeu à la Hotline Miami où le principe, vous êtes un personnage qui doit tuer tout le monde, le scénario n'a aucun intérêt, mais l'aspect intéressant c'est que vous pouvez dasher, vous avez le droit à 6 dashs jusqu'à ce que ça se recharge et donc du coup il y a un côté jouissif que tout le monde vous tire dessus, il peut y avoir 15 mecs qui vous tirent dessus avec des flingues et des fusils à pompe et vous pouvez sauter partout et les tuer et c'est sympathique, je vais pas dire que c'est le jeu de l'année, mais vraiment sympa et ça marche sur toutes les bécanes et ça c'est important. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous souhaite un bon voyage Camille, Sarah et Armand qui est en train de dormir, comme ça vous connaissez les coulisses de l'émission et Rumix qui n'est pas là et puis vous nous revenez en décembre, les filles, hein?
Oui.
Ouais, bientôt. Et à la semaine prochaine, dans 2 semaines pour le prochain épisode. Au revoir.